question est tout à fait, je dirais, spéciale et paradoxale. C'est-à-dire que dans notre apostolat au quotidien, nous n'avons pas de la part du parti et des autorités d'obstacles mis. Nous pouvons très librement agir dans le cadre de la paroisse, les visites aux personnes, y compris organiser des missions porte à porte, donc où on est dans l'espace public. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'entrave à la liberté. De l'autre côté, nous sommes effectivement très, très surveillés et nous savons et nous le constatons que si les relations sont bonnes entre l'Église et l'État, l'État qui continue d'être communiste, d'enseigner à l'école les principes du marxisme-léninisme, ne voit pas d'un bon œil, au fond, le travail de l'Église. Donc il y a un grand paradoxe. Ensuite, au quotidien, notre mission, elle est beaucoup auprès des jeunes qui viennent en nombre à la paroisse. Et notre désir serait certainement de faire plus dans le domaine éducatif. Et là, nous sommes aussi entravés, puisque les écoles catholiques ayant été confisquées en 1961, nous n'avons pas la possibilité ni de récupérer les écoles, ni d'en fonder d'autres, ni même d'entrer dans les écoles publiques pour de l'enseignement religieux. Mais nous essayons de pallier à ces inconvénients, notamment en travaillant dans le cadre strictement paroissial avec ces jeunes, à leur donner non seulement une éducation humaine et spirituelle, mais aussi par le soutien scolaire, par les cours du soir, etc. Donc je crois que c'est aussi la richesse de Cuba, même s'il y a officiellement, administrativement, pas mal d'obstacles, il est toujours possible de trouver des moyens de contourner ces mêmes obstacles.
C'est un équilibre subtil, en fait, où chacun sait finalement jusqu'où il peut aller.
Certainement un équilibre subtil, comme un jeu un petit peu de cache-cache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement direct. Pour ce qui est de notre côté, nous essayons en fait d'avancer, je dirais, nos pions jour après jour, en essayant d'aller toujours un petit peu plus loin dans le sens de la mission, d'élargir le champ de cette mission, à voir jusqu'où se trouve la limite, la ligne rouge.
On parle beaucoup depuis quelques années du rôle de l'Église dans finalement l'établissement d'une société civile. Vous avez cette impression-là aussi ?
Oui, je ne sais pas s'il a lieu d'être aussi optimiste. Il est certain que le parti a recherché dernièrement, en particulier avec l'affaire des prisonniers politiques, l'Église comme interlocuteur, sachant qu'à Cuba, vu l'aspect monolithique de l'organisation du système, il n'y avait aucun partenariat possible, puisque sans existence de partenaire. Savoir quel rôle peut jouer l'Église dans ce domaine-là, c'est assez délicat, puisque jusque-là, ce qu'il y a de positif, c'est que l'Église est considérée comme un partenaire indépendant. De l'autre côté, ne pas se laisser piéger aussi, puisque le parti tâche d'organiser ce dialogue d'une manière bien circonscrite et dans des repères qu'il veut être sien, en répétant, on le voit bien, le caractère socialiste de la révolution, de l'impossibilité d'entrevoir un multipartisme se développer, etc. Donc on est aussi dans un équilibre assez compliqué.
Justement, est-ce que l'Église peut parler, critiquer, sans pour cela passer pour un parti d'opposition, ou en tout cas être dans l'opposition ?
Voilà, c'est certainement la difficulté que vous soulignez, savoir s'il est possible d'avoir une parole critique sans être taxé de parti de l'étranger, entre guillemets, comme en général la dissidence est taxée. Aujourd'hui, cela me semble encore très très délicat. Le dialogue instauré au plus haut niveau a toujours été, d'un point de vue humanitaire, l'Église ayant à agir aussi du point de vue humanitaire, mais à aucun moment il s'est agi d'un discours politique et donc de critique, de dénonciation peut-être des manières de faire du régime qui reste tout à fait autoritaire et dictatorial.
De fait, de l'étranger, notamment les dissidents ou les exilés cubains à l'étranger, voient parfois l'Église comme une collaboratrice finalement du régime en place.
Et c'est certain que le positionnement de l'Église est très très délicat. Il faut qu'elle œuvre à la réconciliation bien nécessaire entre tous les Cubains. C'est un petit peu un leitmotiv, en particulier de cette année de célébration du jubilé marial pour les 400 ans de la Vierge de la Charité. Cette réconciliation est nécessaire, l'Église doit en être l'instrument et le chantre, mais certainement que cette réconciliation suppose aussi une charité dans la vérité, et donc non pas l'oubli de tout ce qui a pu se passer jusque-là, mais l'invitation à des pardons et des demandes de pardon. Je pense que c'est le travail le plus difficile. Parfois, peut-être, dans son zèle et son désir de réconciliation à tout prix, l'Église à l'intérieur de Cuba serait peut-être tentée d'aller à la réconciliation sans faire tout le travail de demande de pardon et de pardon obtenu de part et d'autre. Peut-être cela que la dissidence, l'opposition castriste à l'extérieur regrette. Ils ont parfois l'impression qu'on voudrait faire tabula rasa de ce qui s'est passé pendant 50 ans pour dire on repart sur d'autres bases. Mais il y a bien des blessures qui ne sont pas encore guéries et qui le nécessitent.
On parle beaucoup d'un renouveau de la foi à Cuba. Reste que quand même l'Église est marginale. Les pratiquants réguliers ne sont quand même pas la majorité des habitants du pays. Bon, 50 ans de communisme, de castrisme, ils sont pour beaucoup. Quelle est la réalité de cette situation? N'est-ce pas un trompe-l'œil?
C'est certain que l'on a tôt fait de parler de printemps, de renouveau de la foi à Cuba, notamment pendant 2 années où la Vierge du Cobré a été en pèlerinage de paroisse en paroisse et a soulevé l'enthousiasme des foules. Ce renouveau de la foi est très très fragile. Les Cubains sont très religieux en fait, naturellement religieux, sans beaucoup de formation chrétienne. Et dire que l'on est très croyant à Cuba, ça ne scandalise personne, même parfois les militants du Parti communiste. Je crois que pour parler de renouveau de la foi, il faudrait parler d'un renouveau de l'engagement de la foi de la part des Cubains dans l'Église, ce qui n'est pas tout à fait le cas. La pratique religieuse dominicale est tout à fait marginale, de l'ordre de à peine 1% de la population. Et il y a une des grandes carences dans l'ordre de la doctrine, de la formation chrétienne. Il y a, je crois, à Cuba une grande ouverture au spirituel, à la présence de Dieu, mais il y a un champ immense à travailler. Je pense que cela est l'héritage de 50 ans d'athéisme officiel, l'athéisme enseigné à l'école, et aujourd'hui c'est toujours le cas, mais c'est aussi le reflet d'une société qui n'a jamais été évangélisée en profondeur. Du temps de la colonisation espagnole, il y a eu une évangélisation superficielle, quelque peu sociologique, mais il n'y a pas eu l'établissement d'une terre de chrétienté à Cuba, certainement pas.
Alors justement, pour ce travail d'évangélisation ou de nouvelle évangélisation, est-ce que le clergé est assez nombreux? Est-ce qu'il y a des vocations? Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il est facile pour l'Église, entre guillemets, de recruter et de former de futurs prêtres? Et comment cela est-il perçu par le régime?
Voilà, donc certainement la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Nous sommes actuellement pour toute l'île 300 prêtres. Travaillons à Cuba, 150 étrangers, 150 Cubains, ce qui représente en proportion à peu près 10 fois moins qu'en France, où il manque déjà cruellement de prêtres. Donc c'est une église qui est très fragile et le clergé est très faible numériquement. Pour ce qui est des vocations, bien entendu, l'église appelle. Il y a un certain nombre de vocations. Actuellement, une soixantaine de séminaristes sont formés à La Havane, quelques dizaines aussi à Santiago de Cuba. Il n'y a jamais eu de problème pour l'entrée au séminaire vis-à-vis des autorités religieuses. Il n'y a pas de loi de quota comme au Vietnam ou dans d'autres pays communistes. En revanche, la difficulté est une difficulté de fond, c'est-à-dire que ces jeunes qui ont la foi et qui peuvent avoir une vocation n'ont pas toujours les moyens, je dirais, humains, les ressources spirituelles pour répondre positivement à leur vocation ou pour persévérer dans leur vocation. Le travail de sape, je dirais, est des plus sournois et plus profond, c'est-à-dire que, comme le disait Dagoberto Valdés, un penseur cubain, c'est l'anthropologie qui a été blessée. Et donc nous avons des candidats au sacerdoce bien souvent très très fragiles, y compris des jeunes prêtres très fragiles issus de cette société cubaine qu'il faut soigner particulièrement. Et cela est le gros défi, je crois, des formateurs et de ceux qui appellent au sacerdoce aujourd'hui à Cuba.
C'est en cela que la visite de Benoît XVI est importante, peut-être venir en soutien, en encouragement à cette église qui a beaucoup de travail et à une société cubaine qui vit visiblement un passage, vu les évolutions amenées par Raúl Castro, on peut imaginer que toute une société cubaine est en évolution.
Certainement que le pape va venir faire beaucoup de bien à l'Église dans l'ordre de l'encouragement de la foi, certainement aussi ailleurs, en suscitant un moment de grâce. Je pense que la visite du pape sera un moment historique. Savoir quelle corrélation il y aura avec les évolutions aussi de la société civile et de la politique à Cuba, cela est plus du côté dans l'expectative, un petit peu à tout point de vue, pose un regard quelque peu interrogateur sur les quelques réformes économiques apportées par Raúl Castro, a aussi un regard un petit peu interrogateur sur cette visite du pape, savoir s'il y a lieu d'espérer beaucoup ou de rester dans ce scepticisme de fond, de fatalisme par rapport aux évolutions d'une société figée depuis 1959.
La population cubaine est restée peut-être déçue des retombées de la précédente visite de Jean-Paul II il y a 14 ans.
Le bilan était partagé. Ecclésialement, ce fut quelque chose d'extraordinaire. Et l'Église a repris comme un second souffle après 1998 ou autour de 1998. La possibilité d'être chrétien et de le manifester sans que ce soit stigmatisé. Politiquement, ça a été aussi une victoire de Fidel Castro qui s'était mis au défi d'inviter le pape sans subir le même sort que les pays communistes de l'Europe de l'Est. Donc c'est vrai que le bilan était quelque peu mitigé. Mais ecclésialement, chrétiennement parlant, c'est sûr que la visite du Saint-Père avait fait